Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Jeudi passé, Suzanne est revenue livide de chez le médecin. Il lui a expliqué que les taches sur la radio, c'était un cancer, métastasé. Coup de massue. Suzanne est sonnée. Elle avait eu d'autres projets. La retraite était à portée de main. Elle avait espéré s'occuper un peu plus de ses petits-enfants. Elle aurait aimé passer un peu plus de temps avec son groupe de maison. Peut-être donner un coup de main au Resto du Cœur. Maintenant ça. Pourquoi? Pourquoi moi? Quand la souffrance frappe à la porte, la question du pourquoi peut devenir très lourde. Et peut-être encore plus pour un chrétien. Parce qu'il croit et qu'il affirme que cet univers est gouverné par un Dieu. Et non seulement ça, mais par un Dieu bienveillant. Pourquoi le bon Dieu permet-il que ses enfants souffrent de la sorte? Peut-être quelques-uns ici sont en train de passer par là. On pourrait croire que l'Église est un endroit idéal pour passer un tel cap. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours vrai. Souvent, on a l'impression qu'un bon chrétien, ça doit être toujours dans la joie, souriant, du matin au soir, tout lui réussit, tout baigne, tout va bien, c'est obligé. Et du coup, on fait semblant aussi. Et on garde nos larmes pour notre oreiller. On peut se sentir très seul dans l'Église quand on souffre. Je n'ai pas du tout la prétention de changer ça. Mais je voudrais vous faire découvrir un texte qui, s'il ne donne pas non plus la réponse au pourquoi, va peut-être vous aider à vous sentir un peu moins seul. C'est le psaume 44. Ce n'est pas un des grands psaumes favoris, un texte assez peu connu, mais qui, à mon avis, gagne à être connu. Notre psaume se divise assez naturellement, nous allons le voir, en 5 parties que nous allons découvrir au fur et à mesure. La première partie, elle s'étend du verset 2 au verset 4. Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies en leurs jours, aux jours d'autrefois. De ta main, tu as dépossédé les nations et les as plantées. Tu as fait du mal au peuple et les as envoyés au loin. Ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession de la terre. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais ta droite et ton bras et la lumière de ta face, car tu leur as été favorable. Là, nous sommes dans un thème biblique des plus répandus dans l'Église. Beaucoup de textes évoquent ces choses-là, ces grands jours d'autrefois où Dieu agit avec puissance pour son peuple, ces événements fondateurs du peuple de Dieu. Souvenir, bien sûr, de l'Exode, souvenir de ces 40 années dans le désert, souvenir surtout de la conquête de Canaan qui transparaît ici. Tu as dépossédé les nations, tu as fait du mal au peuple, tu les as envoyés au loin. Tu nous as installés et toujours accompagnés de cette affirmation foncière. Ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est toi. Ce n'est pas nos épées, ce n'est pas les épées des pères qui leur ont obtenu ces victoires, c'est toi. C'est parce que toi tu étais avec eux qu'ils ont pu accomplir ces hauts faits. Donc, rappel constant dans l'Écriture. Rappelle aussi dans les fêtes, la fête de la Pâque, c'est ça, se souvenir de ce que Dieu a fait, année par année, et que les jeunes générations en viennent à ça, que ça s'inscrive dans le génome de ce peuple, qui définit ce peuple. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Et c'est vrai aussi dans la Nouvelle Alliance, nous avons la scène qui nous rappelle presque tous les dimanches ce que Dieu a fait. Ne l'oubliez jamais, revenez constamment à se souvenir de ce que Dieu a pu faire pour vous. Et ce n'est pas tout. Et la deuxième partie nous le montre. Toi qui es mon roi, Dieu, ordonne le salut de Jacob. Par toi nous frappons nos ennemis. Dans ton nom, nous piétinons ceux qui se lèvent contre nous, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, car tu nous rends victorieux de nos ennemis, et ceux qui nous haïssent, tu les couvres de honte. Nous célébrons Dieu toute la journée, ton nom, nous le louerons pour toujours. Là, il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute. Ce n'est plus simplement le souvenir de ces choses que Dieu a pu faire dans le temps. Non, ici, le psalmiste s'approprie ce que Dieu a fait. Et le mot, ce qui devient important dans cette deuxième partie, contrairement à la première, c'est la première personne, soit du singulier, soit du pluriel. Tu es mon Dieu, par toi nous frappons. Là, c'est toujours nous, 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 c'est maintenant. Et ce qui était vrai pour les pères est maintenant vrai pour nous. Si nous remportons des victoires, ce n'est pas parce que nous sommes si forts. Ce n'est pas notre arc, ce n'est pas mon épée, hein, c'est toi. Donc ce qui a été vrai pour les pères est vrai toujours pour nous. Hein. La foi n'est pas un musée, la foi est une relation vivante qui s'inscrit dans le présent. Donc le souvenir des pères est rappelé, mais en plus, il est approprié. Et on pourrait se dire, avec une attitude comme ça, tout baigne. Qu'est-ce qu'un peuple qui se positionne comme ça, qu'est-ce qui peut lui arriver? Eh bien, c'est la troisième partie. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Or, tu nous as rejetés et malmenés. Tu ne sors pas avec nos troupes. Tu nous fais reculer devant l'adversaire. Ceux qui nous haïssent nous dépouillent à leur profit. Tu nous donnes comme du bétail qu'on dévore. Tu nous as dispersés parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien et tu n'augmentes pas leur prix. Tu as fait de nous la honte de nos voisins, moquerie et plaisanterie de ceux qui nous entourent. Tu as fait de nous une fable parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Toute la journée, j'ai été confus et la honte me couvre le visage. À force d'entendre les insultes et les blasphèmes et de voir l'ennemi se venger. C'est la catastrophe. Alors, le psalme ne dit pas exactement ce qui se passe, mais entre les lignes, on peut entrevoir une défaite militaire majeure, hein, quelque chose qui menace l'existence du peuple. Tu ne sors pas avec nos troupes, avec nos armées, tu nous fais reculer. Hein. Non seulement on ne progresse pas, mais on recule. Hein. Et puis, il y a ici des notions d'exil qui semblent être dans ce psaume. Tu nous as dispersés parmi les nations, hein, donc cette défaite est grave, gravissime. Hein. On est dépouillés, on est tués, hein, on se moque de nous, c'est l'humiliation nationale, c'est la cata. Insulte et blasphème, l'ennemi se venge. C'est vraiment la situation dans un pays qui est occupé par l'ennemi et où le peuple est profondément humilié. Il y a une certaine honte qui transparaît ici. Il y a quelque chose de profondément affligeant qui s'est produit. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Après ces deux premières parties, comment est-ce possible? Et si vous avez les réflexes bibliques en place, si vous avez bien lu votre Bible, vous vous dites, eh bien c'est simple, c'est que le peuple a été infidèle. Ça, c'est inscrit dans la loi, hein, où Dieu dit, dès le Deutéronome, hein, les malédictions qui frapperont le peuple qui ne respecte pas les termes de l'Alliance. Et la défaite en fait partie, et l'exil en fait partie. Vous dites, papa, c'est logique. C'est ce que les prophètes ont annoncé ici et là. Si vous ne respectez pas la loi de Dieu, vous allez voir ce que vous allez voir, mais ça ne va pas être agréable. Hein? Et puis vous avez des livres bibliques, les Lamentations, hein, qui décrivent cette situation, hein, cette prise de conscience. On s'est planté et Dieu nous a frappés sévèrement. Daniel aussi fait ce constat. Et on pourrait se dire, oui, ça doit être ça. Ça expliquerait tout. Hein? Mais, quatrième partie du psaume, grande surprise. Tout cela est arrivé sur nous alors que nous ne t'avions pas oublié et que nous n'avions pas trahi ton alliance. Il n'a pas reculé notre cœur et nos pas ne se sont pas éloignés de ton chemin. Et pourtant, tu nous as écrasés dans un endroit pour chacal et tu nous couvres d'obscurité. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et si nous tendions nos mains vers un autre Dieu, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur? C'est à cause de toi qu'on nous tue toute la journée, qu'on nous considère comme bétail à abattre. Non, non, le psalmiste est loin d'être dans une confession de faute, là. Il conteste cette faute. Tout au contraire, il affirme haut et fort que non, le peuple a été fidèle cette fois-ci. On est peut-être un petit peu en train de rejouer le livre de Job, vous savez. Quelqu'un d'intègre, ça se voit dans les deux premières parties du psaume, quelqu'un d'intègre qui se voit frappé d'un fléau impressionnant. Et puis, on arrive et on dit, bah, ça doit être de sa faute. On est un peu dans la peau des amis de Job qui viennent là constater les dégâts et dire, bah, on a trouvé l'explication. Mais le bougre, il résiste, il dit, non, non, non. C'est ce que Job fait et c'est ce que semble faire ici le psalmiste. Mais on pourrait se dire, et certains commentateurs le font, et ils se trompent, ils se font des idées. Et en le faisant, ils sont vraiment dans le rôle des amis de Job. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un est vraiment innocent? Est-ce qu'on peut être innocent dans la vie? Lorsque nous évangélisons, nous répandons non seulement la bonne nouvelle, mais aussi la mauvaise nouvelle du péché universel, que nous sommes tous plus ou moins atteints du mal, que nous avons tous raté la cible, que tous nous avons besoin du pardon de Dieu, qu'aucun d'entre nous ne peut se payer son salut lui-même. Et nous avons raison de le dire. Mais voyez-vous, c'est de la mauvaise théologie que de prendre cet élément de la doctrine du salut et d'en faire une espèce de massue pour frapper ceux qui sont dans des catastrophes, qui vivent des galères et qui souffrent. C'est vrai que ça peut parfois être un jugement de Dieu, mais ça ne l'est pas nécessairement. Si demain votre enfant se fait renverser à l'arrêt de bus par un chauffard, vous saurez peut-être pour chercher ce qui dans votre vie peut justifier ça, vous en trouverez peut-être pas. Job, il crie son innocence et il a raison de le faire. Non pas que Job était un homme sans faute, non pas que Job pouvait s'acheter lui-même son salut, mais c'est hors propos, voyez-vous. Mais il n'y a rien qui justifie dans la vie de Job cette série de malheurs qui lui arrivent. Au contraire, nous savons que c'était un type particulièrement intègre. Donc, nous sommes tous coupables devant Dieu. Personne n'est innocent en ce sens. Mais nous pouvons parfaitement être innocents dans les catastrophes qui frappent notre vie. Le psalmiste, ici, clame l'innocence du peuple. Et moi, pour ma part, je n'ai aucun élément pour dire qu'il se trompe ou qu'il ment. Voyez-vous, la souffrance, c'est quelque chose de compliqué. Il y a tant de genres de souffrance. Méfiez-vous comme la peste des théoriciens de la souffrance. Méfiez-vous des gens qui vous disent « Tu souffres donc !» Et inversement, méfiez-vous aussi de ceux qui disent « Tu ne souffres pas donc !» Tu n'es pas un bon chrétien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas si simple. En tout cas, le psalmiste, lui, il persiste et signe. Et là, le psaume atteint son sommet, son apogée. Qu'est-ce qu'il va pas dire? Il va dire la chose suivante. Réveille-toi! Pourquoi est-ce que tu dors, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas toujours. Pourquoi est-ce que tu caches ta face ou oublies notre misère et l'oppression qui nous accable? Car notre esprit sombre dans la poussière et notre ventre colle à la terre. Lève-toi et viens à notre secours. Libère-nous à cause de ta bienveillance. Réveille-toi, dit-il à Dieu. Pourquoi tu dors? Lève-toi enfin. On frôle le blasphème ici. Je ne sais pas si vous le sentez. On frôle le blasphème. Il y en a qui ont été lapidés pour moins que ça. Uzza a voulu retenir l'arche qui tombait. Il s'est vu frapper. Et ici, nous voyons quelqu'un qui accuse Dieu de sommeiller, de se désintéresser du peuple, pourtant fidèle. Comment est-ce possible de trouver de telles paroles dans l'Écriture? C'est la souffrance d'un innocent qui le fait parler ainsi. Alors, des souffrances de ce type, nous les connaissons et nous les vivons peut-être. Bien entendu, on pourrait parler ici de l'Église persécutée. L'exemple même, je dirais, d'un groupe de gens qui sont fidèles et qui, parce qu'ils sont fidèles, souffrent. Mais je ne voudrais pas parler de l'Église persécutée aujourd'hui. Je voudrais parler de quelque chose de plus près de chez nous et d'une certaine manière d'actualité. Chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai réfléchi sur ce problème-là. Je voudrais parler un petit peu de ces événements que nous avons vus ces dernières semaines et mois autour de la loi sur le mariage homosexuel. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait souffrir de ce débat. Ça m'a fait souffrir. Non pas tant que le gouvernement a légiféré enfin en ce sens, que je trouve qu'il y a une certaine cohérence, une certaine logique. Lorsqu'on voit l'évolution de nos sociétés, c'est presque inévitable qu'on en arrive là. Et tous les États occidentaux vont finir par adopter de telles mesures. Ce n'est pas tant ça qui me fait souffrir. Ce n'est pas non plus tellement le sort de ces enfants qui grandiront avec, enfin, sans avoir dans leur contexte immédiat, un père et une mère. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour un enfant. Mais je ne pense pas non plus que ce soit la catastrophe absolue. Il y a tellement de familles monoparentales aujourd'hui sans que ça donne forcément que des enfants détraqués. La nature, finalement, a assez bon dos. Mais ce qui m'a fait souffrir, c'est d'assister en spectateur impuissant à l'évolution de nos sociétés dans un sens qui s'inscrit à l'encontre du projet de Dieu pour l'homme. Et ça, ça ne peut jamais être bon. Et on inscrit dans la loi la rébellion contre Dieu. Et je vois nos sociétés abandonner peu à peu tous les bagages que le judéo-christianisme leur a donnés. Et ça va faire des dégâts. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les chrétiens doivent imposer aux autres leurs règles du jeu. Je pense que ça n'a aucun sens. Et ça ne peut pas fonctionner. L'histoire l'a montré maintes fois. Mais je suis peiné de voir où nous en sommes arrivés dans nos sociétés, que les chrétiens ne pèsent plus rien. Que notre parole fait pchit. Ça n'intéresse plus personne. Plus personne s'intéresse à ces règles que Dieu a édictées. Et si Dieu a dit les relations entre hommes, c'est hors propos, c'est interdit, ce n'est pas pour rien. Mais ça n'intéresse plus personne. Et je trouve ça profondément triste. Je suis désolé de voir à quel point l'Église est devenue impuissante dans la société. On va finir par raser les murs, pour se faire petit. Nous sommes si peu et si peu puissants. Et quand on voit les forces en présence, on ne peut qu'être impressionné. Je cite volontiers l'exemple du rabbi Bernheim. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, le Rabbi Bernheim était au début de cette opposition à ces textes de loi, un peu la figure de proue du mouvement et aussi un petit peu la caution intellectuelle des opposants à cette loi. J'ai eu l'occasion de l'entendre il y a quelques années, c'est un type assez brillant, il faut le dire. Mais il a eu des comportements très regrettables, hein. Il a plagié, il s'est inventé des titres qu'il n'avait pas, chose que je ne voudrais absolument pas défendre. Mais en tout cas, il est devenu l'homme à abattre. Et on a trouvé, on a trouvé des cadavres dans son placard. Hein, et on l'a anéanti. Hein, cet homme, il est grillé pour toujours. Il est destitué, il est ridiculisé, il est mort intellectuellement. Pourquoi ? Parce qu'il a osé se dresser contre ce bulldozer qui passe sur notre pays. Et moi, ça m'a impressionné, non pas, encore une fois, pour le défendre, mais ça m'a impressionné parce qu'on voit les forces en présence. On voit quelle puissance, finalement, est derrière ces mouvements. Et nous sommes rien à côté de ça. Et quand on voit ce genre de situation, on peut se décourager. On peut se demander si Dieu a lâché le gouvernail. Et moi, comme le psalmiste, je suis triste et j'ai envie de dire à Dieu, mais réveille-toi, pourquoi est-ce que tu tords, Seigneur ? Pourquoi tu oublies notre misère et l'oppression qui nous accable ? Pourquoi tu fais rien ? Rien. Tu es silencieux. Donc, voilà un exemple de la souffrance qui peut être la nôtre en tant qu'Église. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais c'est la mienne en tout cas. Hein? Cette souffrance de voir la société tirée dans un sens qui est vraiment opposé à ce que nous savons juste et ce que Dieu a révélé comme étant juste et sa volonté. Mais bien entendu, la souffrance du psalmiste peut aussi s'appliquer à vos vies individuelles. Souffrir en tant qu'innocent, c'est possible. Souffrir à cause de notre attachement à la révélation de Dieu. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu viens de vivre une catastrophe. Peut-être tu viens de te faire diagnostiquer une sclérose en plaques ou un Parkinson. Peut-être ton mariage est en train de partir en vrille alors que tu fais tout pour le maintenir à flot. Peut-être tu souffres de voir tes enfants tourner mal alors que t'as vraiment tout essayé. Peut-être ton affaire est en train de péricliter dans cette grande crise économique qui nous frappe. Peut-être tout simplement tu crèves de solitude ou de l'impossibilité d'avoir un enfant. Il y a tant de souffrances qui peuvent exister. Peut-être tu vis une de ces souffrances qui est là quand tu réveille le matin, qui est là sur ton chevet et qui t'accompagne le soir, hein, jusque dans tes rêves. Et à côté de ça, tu as l'impression que Dieu roupille. Alors ce psaume-là, il est aussi pour toi. Ce psaume est pour toi parce qu'il te dit que tu peux vider ton sac devant Dieu. Comme je l'ai dit, le psalmiste n'y va pas de main morte. Il dit à Dieu, réveille-toi enfin. Mais ça ne pose pas de problème. Vous savez, non seulement le psalmiste n'a pas été frappé de la fourde divine, mais qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Cette prière-là, elle a été intégrée dans le canon des Écritures. Elle fait partie des 150 prières retenues par Dieu et données à son peuple pour qu'il les médite, pour qu'ils les lisent, pour qu'ils les prient, pour qu'ils se les approprient. Et pendant des millénaires, on a lu ces textes, on les a réfléchis, on prêche dessus la preuve. Donc non seulement Dieu n'a pas frappé le psalmiste, mais il a considéré que c'était une prière mémorable. Comme s'il nous disait, si tu souffres, tu peux m'en parler. Et tu peux utiliser les mots qui te viennent. N'aie pas peur. Dis ce que tu as à dire. Peut-être demain, tu regretteras le choix de tes mots. Peut-être le psalmiste s'est dit après. c'est pas grave. Dieu t'en veut pas. Bien sûr, il ne s'agit pas d'adopter une posture, hein, de faire comme le psalmiste, pour faire cool. Mais quand le cœur est plein, eh ben, que ça se vide, vide ton sac. Dieu est assez costaud pour prendre ce qu'il y a dedans. Je crois que nous touchons là à quelque chose de très profond. Je ne suis pas un grand sage, Dieu sait. Et quand je considère ma vie, je la trouve assez médiocre à bien des égards. Mais une chose, je l'ai comprise, et je voudrais vous la donner. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Dans votre relation avec Dieu, soyez d'une totale transparence avec lui. Soyez aussi sincère que vous pouvez. S'il y a une relation dans la vie où il ne doit pas y avoir une once de faux semblant, c'est celle-là. Soyez aussi honnête que possible avec Dieu. Si vous êtes dans la joie, dites-le-lui. Mais si vous êtes dans la peine, dites-le-lui aussi. Si vous lui en voulez de quelque chose, dites-le-lui. Si vous le détestez parce qu'il vous a fait ça, dites-le-lui. Soyez honnête avec lui. Et il l'honorera. Job l'a fait et Dieu l'a honoré. Il a dit, Job a bien parlé de moi. Le psalmiste le fait et Dieu l'a honoré. Faites de même et il vous honorera. Et puis, soyez comme le psalmiste. Accrochez-vous à ce que vous savez de Dieu. Le psalmiste y finit en disant, libère-nous à cause de ta bienveillance. Je sais que tu es bienveillant et je m'accroche à ça. Je ne le vois pas, mais j'y crois. Je vais y croire et je construis là-dessus. Et je ne te lâcherai pas parce que je sais que tu es bienveillant. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? L'Écriture ne nous donne pas la réponse à ces questions. Peut-être parce que la question, au fond, est mal posée. Ou peut-être parce que la réponse nous dépasse. Allez savoir. Quand vous posez la question du pourquoi, l'Écriture, en général, vous ramène vers le qui. Sur le terrain du qui. C'est ce qui arrive à Job. C'est Job, il clame, il dit pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui montre un tas de choses compliquées. Il dit, tu comprends, ça, non? Moi, je comprends. Fais-moi confiance. Et la psalmiste, il termine en disant, Dieu est bienveillant, je le sais. Je voudrais vous lire le seul texte dans le Nouveau Testament qui cite le psaume 44. Et je vous laisse découvrir quel morceau il en cite et comment Paul enchaîne en partant de là. C'est très intéressant.
Vous allez voir.
Un texte chéri de tous, ou de beaucoup en tout cas. Romains 8, la fin de Romains 8, où Paul dit, que dirons-nous alors à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi toutes choses avec lui comme une grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui c'est qui les condamne? Le Christ qui est mort et mieux encore, qui est ressuscité et qui tient à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou l'épée? Comme il est écrit, à cause de toi nous sommes tués toute la journée, on nous considère comme du bétail à abattre. Mais en toutes ces choses, nous triomphons par celui qui nous a aimés. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, nous pouvons passer collectivement ou individuellement par des moments très durs, où Dieu semble dormir. C'est vrai, c'est l'expérience du psalmiste, c'est peut-être la nôtre, peut-être la tienne, la mienne. Mais n'en doutons pas, il y aura de la lumière au bout du tunnel, parce que la promesse, elle est là. En toutes ces choses, nous triompherons par celui qui nous a aimés. Amen. Amen.